Il avait hâte d'accomplir son projet. Et cependant, dès qu'il vit assez loin pour n'être pas aperçu de son compagnon, il ralentit le pas sous le poids des pensées fiévreuses qui tourbillonnaient dans son cerveau. Il était alors dans la Langenlauben, sombre rue dont les arcades le mettaient à l'abri de la pluie. Il s'assit sur un banc de pierre et appuya sa tête appesantie contre un pilier. À cette même place se tenait pendant le jour une bonne vieille qui vendait des châtaignes rôties. L'écosse, dont la terre était encore couverte, craquait sous les épais souliers garnis de clous que portait André. Combien de fois était-il venu ici apaiser sa faim, alors qu'un sentiment de fierté blessée l'empêchait de demander de la nourriture à sa mère. Et là, quelques maisons plus loin, se trouvait la boutique du confiseur chez lequel Moïdi avait l'habitude de porter ses petites économies. Il lui semblait voir encore le gros biscuit en forme de cœur, première friandise qu'elle se fût achetée. Elle avait voulu le partager avec lui et, comme il refusait, elle avait jeté le gâteau dans la passerre. La pauvre enfant en aurait pourtant mangé volontiers. Elle pleurait en faisant ce sacrifice. Le souvenir de ses larmes enfantines éveilla dans l'âme d'André un sentiment de joie et de triomphe. Il était fier de la puissance qu'il avait eue sur cet esprit mutin. Mais il s'effraya de cette pensée et il se leva en proie à une vive agitation. Il s'avança en tâtonnant au milieu de la rue silencieuse jusqu'à ce qu'il reconnut la maison du vicaire de 10 heures. La porte se trouvait ouverte, mais le vestibule était si obscur, l'escalier si roide et si délabré, qu'à moins de connaître parfaitement les lieux, tout visiteur courait le risque de se rompre le cou. André monta lentement. Le bruit de ses pas effrayait les souris qui se sauvaient en poussant de petits cris aigus, comme pour se plaindre d'être dérangé à pareille heure. Le jeune homme, arrivé à la mansarde où logeait l'ecclésiastique, s'arrêta un moment et prêta l'oreille, mais n'entendant aucun bruit, il prit le parti d'entrer. La chambre était vide. Le vicaire ne se trouvait pas non plus dans la pièce voisine, celle qu'André avait habitée en qualité d'élève. Le malheureux se crut abandonné de Dieu et des hommes. Il se laissa tomber sur le lit qui n'avait pas été défait, et repassant dans sa mémoire sa triste jeunesse, il se livra aux plus sombres réflexions. Une belle chatte, unique gouvernante du prêtre, reconnut le jeune homme et se glissa doucement auprès de lui en faisant entendre un ronron joyeux. Elle finit par sauter sur ses genoux et frotta son dos moelleux contre la poitrine d'André. Celui-ci répondit aux caresses de sa vieille amie en cachant son visage dans la fourrure soyeuse de l'animal, puis il se mit à verser d'abondantes larmes, et après s'être ainsi soulagé le cœur, il se leva et descendit l'escalier. 1 heure sonnait à la vieille église. Il ne pouvait plus hésiter s'il voulait accomplir sa résolution. Il suivit le chemin que le vicaire de 10 heures avait pris dans la matinée pour se rendre chez Hirtzer. L'ecclésiastique était toujours très bien reçu au château de Goyen. Peut-être avait-il été retenu, soit par une conversation édifiante avec la tante Anna, soit par les instances du vigneron pour lui faire goûter de nouvelles pièces de vin. Le fugitif traversa la Laubengasse, sortit de la ville et se mit à gravir le sentier rocailleux qui domine le sauvage passer. La pluie tombait plus doucement. L'air était moins lourd. Un vent assez vif qui soufflait du nord avait déjà chassé une partie des nuages, en sorte que les pâles rayons de la lune se reflétaient sur les vagues écumantes de la ravine rocheuse. Sur la gauche de la montagne, à un quart de lieue tout au plus, il aurait pu jeter un dernier regard sur la fenêtre auprès de laquelle sa sœur dormait. Non loin de là se trouvait un parapet de pierre. Une prière fervente, un saut rapide, et tout serait dit. Il serait délivré de ses douleurs terrestres. André détourna la tête, essuya la sueur qui couvrait son visage, et se mit à marcher d'un pas rapide comme pour fuir ces deux tentations. Plusieurs gardes-villes l'aperçurent et l'appelèrent. Il échangea un salut avec eux, mais ne s'arrêta pas à leur parler. Ses yeux se fixaient avec une impatience de plus en plus vive sur la hauteur que dominait le vieux manoir, massif irrégulier de pierres noircies, autour duquel bruissaient les hautes cimes des châtaigniers. André n'avait pas mis les pieds sur ce chemin depuis l'âge de 17 ans, un jour que, poussé par le désir de revoir sa marraine, la douce et pâle tante Anna, il était venu visiter les enfants de Joseph Hirzer. Mais le vigneron, qui était dans sa cour, l'avait accueilli avec de dures paroles et lui avait défendu de jamais se montrer au château. Le jeune homme était parti, la rage au cœur, en se promettant de ne plus franchir le seuil de cette maison. Aujourd'hui, pourtant, le besoin qu'il éprouvait d'aide et de conseil lui faisait oublier son ancienne querelle. Quand il fut arrivé auprès de pénibles détours au sommet de la montagne, il s'arrêta indécis, songeant avec tristesse combien la demeure du vieux paysan lui était peu familière. Il apercevait bien le petit escalier de bois construit à l'extérieur qui venait s'attacher au mur en ruine et donnait accès dans les chambres encore habitables. Mais il courait le risque d'éveiller ce qui lui était hostile. Que répondre à leurs questions? Comment expliquer sa visite nocturne? Sa tête était si fatiguée, ses idées si confuses, qu'il ne savait quel parti prendre. En cet instant, les aboiements d'un chien dont la niche donnait sur l'escalier firent cesser son irrésolution. En effet, à peine le vieux gardien, qui, grâce aux années, était devenu trop paresseux pour quitter sa place, avait-il fait entendre comme un regret des hurlements de mauvaise humeur, qu'une petite porte s'ouvrit et une femme parut en haut de l'escalier. André l'entendit gronder le chien qui empêchait la tante Anna de dormir. « Rosine ! » s'écria-t-il. La jeune fille effrayée referma la porte. Puis elle écouta un moment et le chien demeura silencieux. Et quand pour la seconde fois son nom fut prononcé, elle s'avança et regarda par-dessus la balustrade de l'escalier. « Mais qui est là ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « André, est-ce toi ?»«
Oui, c'est moi, » répondit le jeune homme. « Le vicaire de 10 heures est-il ici ?»
Elle ne parut pas entendre cette question. Elle était rentrée dans la maison, laissant le fugitif en proie à une vive anxiété. Elle ressortit bientôt, couverte d'un châle, et descendit les marches d'un pas agile.
« André, mais est-il possible ? » murmura-t-elle en se dirigeant précipitamment vers lui. « Mais que viens-tu faire à cette heure ? S'est-il passé quelque chose avec Maria ou bien... »«
Non, je cherche le vicaire de 10 heures, » interrompit le garde-vigne. « Est-il ici ou s'il n'y est pas, sais-tu où je puis le trouver ?»
« Mais il est ici, » répondit vivement la jeune fille. Je vais te mener auprès de lui. Mon père dort en ce moment, et d'ailleurs personne excepté la tante Anna ne doit savoir que tu es venu. Oh non, pas même elle, dit résolument le jeune homme. Je n'ai pas un instant à perdre. Allez, donne-moi la main pour me guider. Je monte et redescends aussitôt. Ils gravirent l'escalier. Le chien poussa quelques grognements, mais il les laissa passer sans autre résistance. « Ah, je rêvais de toi, juste au moment où tu es arrivé, » dit Rosine, tandis qu'elle allumait une petite lampe. « Et mon rêve était effrayant. Ah, je te voyais étendu mort sur le quai. On t'avait retiré de la passerelle et l'on voulait te rappeler à la vie, mais je répétais toujours « Oh, laissez-le, vos soins ne servent à rien. » Je me sentais glacé dans tous mes membres. Ma voix me faisait peur, pourtant je continuais à dire « Mais laissez-le, vos soins ne servent à rien, il est mort. » Et là-dessus, le chien s'est mis à aboyer « Et tu es vivant, tu es auprès de moi, André, Dieu soit béni. »
« Oh, les rêves sont vrais quelquefois. » murmura le garde entre ses dents. Mais il ne voulut pas effrayer la jeune fille, et il ajouta « Oui, Rosine, je suis en vie, mais il faut que je quitte Merlin, que je m'en aille bien loin. Tu sauras assez tôt pourquoi. Je partirai cette nuit même, dès que j'aurai parlé au révérend. » Le visage pâle et délicat de la jeune fille se colora d'une vive rougeur. Ses beaux yeux bruns exprimèrent l'étonnement et le trouble.
« Partir, André ? » s'écria-t-elle. « Mais est-ce possible ? Voudrais-tu abandonner Moïdi, nous quitter tous ? Et quand reviendras-tu ? Mais qu'est-il donc arrivé ? Ta mère aurait-elle encore ?
Oh, ne me parle pas de ma mère, dit-il d'une voix brève. Ne m'en demande pas davantage. Plus tard, tu sauras tout. Et maintenant, montre-moi la chambre de mon révérend maître, car le temps presse. »
Rosine, silencieuse et découragée, prit la petite lampe et marcha devant lui. Ils traversèrent le vestibule dont les murs blanchis à la chaux faisait ressortir deux figures de saints brunies par le temps et que la brosse du badigeonneur avait épargnées. Un étroit escalier de pierre conduisait à l'étage supérieur, et partout on respirait le parfum pénétrant de belles pommes mûres qui étaient rangées dans un coin. Le balancier d'une vieille horloge faisait entendre son battement sonore, et les souris, effrayées par le bruit des pas, s'enfuyaient pêle-mêle dans leurs trous. « C'est ici, » dit la jeune fille, en s'arrêtant devant une haute porte délabrée. Elle remit la lampe entre les mains du garde et resta dans le corridor jusqu'à ce qu'il fût entré. Un moment, elle éprouva la tentation d'appliquer son oreille au trou de la serrure, mais elle fit un effort sur elle-même et, secouant la tête, elle redescendit rapidement dans la cuisine pour y attendre le retour d'André. Celui-ci demeura quelques instants immobile dans l'immense pièce lambrissée de bois sombre où un lit avait été préparé pour le paisible dormeur. Pour la première fois, il eut le vague pressentiment que son pasteur et maître n'aurait pas le pouvoir d'apaiser la tempête qui se déchaînait dans son âme. Un désir anxieux de trouver quelque secours pour calmer les reproches de sa conscience l'avait poussé ici. Mais la paix empreinte sur ce visage, légèrement coloré, au souffle si doux et si calme, n'était pas faite pour lui. Pourquoi dévoilerait-il la cause de son angoisse, puisque personne ne pouvait le secourir? Il se retirait à pas silencieux quand le vicaire, troublé par la lumière de la petite lampe, fit un léger mouvement et, sans ouvrir les yeux, dit Le vin de cette année est bon, mais celui de la récolte précédente était meilleur. Fais-y bien attention, André. Le fardache rouge.
Mon vénéré maître, dit le jeune homme à voix haute, je suis ici et je vous prie de me pardonner si je trouble votre repos. Cependant, je ne voudrais pas partir sans prendre congé de vous.
Le dormeur, effrayé, promena sur le visiteur inattendu ses yeux tout grands ouverts.
« Bonté divine ! » s'écria-t-il. « Mais qu'est-il donc arrivé ? Est-ce bien toi, André, ici, dans le château de Goyenne, au milieu de la nuit, avec un visage plus mort que vif ?»«
J'ai quelque chose sur la conscience, mon révérend, » répliqua le jeune homme. « Oh, je dois fuir comme Caïn. J'ai tué un homme. Il n'est plus pour moi de repos sur la terre. »
« André !» s'écria le vicaire effrayé. « Tu as ?»
La parole expira sur ses lèvres. Le visage presque hagard, il se mit sur son séant et croisa machinalement les mains sur la couverture à carreaux rouges. Le saltner lui apprit en peu de mots ce qui s'était passé. Quant à sa sœur, il n'en dit pas un mot. Il ajouta, en frémissant, qu'il voulait avant tout chercher asile dans un cloître et qu'il priait son cher maître de lui donner une recommandation afin qu'on ne le repoussât pas s'il se présentait sans être muni de tous les papiers nécessaires. Il se tut alors et attendit avec impatience la réponse de son confesseur. Mais celui-ci, absorbé par ses réflexions, regardait fixement devant lui.
« Cela ne vaut rien, mon fils, » dit-il enfin d'un air soucieux. « Les tribunaux obtiendront ton extradition, et comme tu n'as encore reçu aucune consécration, tu seras ramené devant eux. » Mais d'ailleurs, que peut-il t'arriver de si fâcheux? Tu n'as pas été l'agresseur, tu as frappé dans les ténèbres, et la pauvre âme de ce misérable soldat ne peut t'accuser devant le trône de Dieu. Ainsi, je pense que tu dois te rendre tranquillement auprès du magistrat, lui faire ta déclaration et attendre. Songe-y, si tu t'exilais, que deviendrait ta sœur? Elle n'aura d'autre protecteur que toi, quand la mère aura fermé les yeux. » Le rouge monta au visage du jeune homme. Il détourna la tête pour cacher son trouble. « Non, rien ne changera ma résolution, » dit-il d'une voix sourde. « Non, je ne resterai pas ici pour y être l'objet de tous les commentaires et pour me voir condamné et pour exciter une pitié humiliante. Oh, plutôt aller en enfer !» Que Dieu me pardonne mes péchés. Si votre révérence refuse de me secourir, je n'en poursuivrai pas moins mon chemin. Car il y a, reprit-il plus lentement, une chose que je ne puis vous dire, et c'est pour cela que je pars. Il me semble que j'étoufferais ici si je ne cherchais pas au milieu de ces montagnes un lieu où je puisse respirer plus librement. Quand bien même tout se terminerait sans encombre avec la justice, je ne resterai pas dans le pays, j'irai au couvent. C'est le seul parti qui me reste à prendre, puisque Dieu nous défend de sortir autrement de ce monde. Oh, ce que je ferai pourtant avec joie. Mais n'importe où je serai mort aux yeux de tous. Je veux oublier moi-même qu'il existe encore des hommes sur la terre. De cette façon, je pourrais peut-être supporter l'existence. Sans cela, je n'y parviendrai pas, aussi vrai que je suis devant vous. » Le prêtre fronça ses noirs sourcils et hocha la tête en le regardant avec attention. « Mais qu'est-ce que c'est que ces secrets, ces mystères ? » dit-il sévèrement. « Mais ne les avoueras-tu pas à ton confesseur ?»« À lui, soit, » répliqua le jeune homme intimidé, et rougissant
sous l'œil du vicaire, mais seulement quand je serai dans le cloître. Voilà pourquoi, mon révérend, je vous supplie de m'aider à retrouver un peu de calme et de ne pas me laisser partir sans recommandation. Bon courage, mon pauvre enfant, dit le prêtre avec compassion. Tu as déjà bien commencé tes études ecclésiastiques, et quant au latin, il t'en est, je pense, resté quelque chose dans la tête. Oh, je puis te recommander au père Bénédictus. Et il lui nomma un couvent de capucins situé au sommet du Vinschgau, qui, à cause de l'air âpre qu'on y respirait, recevait peu de visiteurs. Salue-le de ma part. Dans la matinée, j'enverrai une lettre qui lui apprendra quelle est ta situation. En attendant, je te remets à la sainte protection de notre Seigneur Jésus et de sa Mère pleine de grâce. Si ton cœur éprouve le besoin de se décharger de sa peine secrète, tu sais que tu peux m'écrire et qu'en tout temps tu trouveras en moi un ami. Que Dieu soit avec toi, mon enfant. Visiblement ému, il tendit une main que pour toute réponse le jeune homme pressa respectueusement sur ses lèvres. Puis il se retira, l'âme moins oppressée, et ferma derrière lui la porte massive. Mais si légèrement qu'il eût traversé le corridor voûté, car il appréhendait de rencontrer le vieux vigneron, son pas fit battre deux cœurs. Une petite main pâle et délicate ouvrit une chambre située à côté de la cuisine, et un visage vieilli par le chagrin plutôt que par les années se tourna vers l'étroit escalier de pierre. C'était la tante Anna qui avait entendu Rosine aller venir autour du foyer et l'avait appelée auprès d'elle. « Il ne veut voir personne que le révérend, » avait dit la jeune fille. « Il faudra qu'il me voie aussi, » avait répondu Anna d'une voix douce et ferme. Aidée de sa nièce, elle s'était habillée à la hâte, et sans ajouter une parole, elle avait attendu sur son fauteuil que le fugitif redescendit. Les pâles rayons de la lune qui pénétraient à travers les vitres éclairaient seuls la pièce où se trouvaient les deux femmes. Le Christ d'ivoire placé au-dessus du lit, le prie-Dieu, les meubles rangés symétriquement le long des murs, tout dans cette chambre respirait un calme mélancolique, comme si la pauvre fille qui l'habitait voulait éloigner d'elle le bruit et l'agitation du monde, puisqu'elle n'en connaissait plus les espérances. Cette retraite avait vu couler plus d'une larme et entendu s'exhaler plus d'une ardente prière. Rosine pouvait encore en ce moment même voir les lèvres de sa tante s'agiter en silence, et elle n'osait la troubler. Bientôt un pas retentit à l'étage supérieur, et la pieuse fille se leva et s'avança vers la porte. « Entrez !» appela-t-elle à demi-voix. Le jeune homme s'arrêta irrésolu. Il aurait voulu continuer sa marche, mais il n'eut pas la force de passer outre, d'autant plus qu'il pensait ne jamais revoir en ce monde les yeux calmes et pleins de bonté de la tante Anna. « Oh, on vous a réveillé, ma reine, » dit-il enfin. « Je vais cependant prier Rosine. » « Mais non, je me suis réveillé de moi-même, » répondit-elle. « Mais viens ici, André, » continua-t-elle en entraînant dans la chambre. « Et maintenant, apprends-moi ce qui t'est arrivé et ce que tu projettes pour être venu ici à cette heure. N'es-tu plus Saltner? Comment se fait-il que tu aies quitté ton poste ?» Elle avait pris sa main et prononcé ces paroles à la hâte comme pour étouffer une angoisse intérieure. Le jeune homme regardait à terre d'un air troublé. Il s'interrogeait sur le degré de confiance qu'il pouvait avoir dans la tante Anna. Depuis des années, il n'avait pas échangé un mot avec sa marraine. Mais il avait beaucoup pensé à elle, et il avait vivement souhaité de la rencontrer une fois seule peut dire combien elle lui était attachée du fond du cœur et combien il lui était pénible de se voir contraint à l'éviter. Il sentait que si jamais il pouvait avouer à quelqu'un sa souffrance secrète, ce ne serait à personne d'autre qu'elle. Malheureusement, Rosine se trouvait là, près de la fenêtre. Le temps pressait, et d'ailleurs, quelle aide pouvait-il recevoir? Cette sainte elle-même ne saurait lui rendre la paix. « Marraine, dit-il, le révérend père vous dira demain ce qui me force à m'éloigner du pays. Nous, j'ai été malheureux dès ma naissance. Sans père ni mère, je n'ai jamais connu le bonheur et l'espoir. Mieux vaut que je meure au monde avant de perdre courage tout à fait. Voilà pourquoi je veux aller dans un couvent. » Il m'est doux de vous avoir vu avant de partir, car de tout temps, j'ai eu pour vous un grand amour et un grand respect. Le ciel sait que j'aurais été meilleur si j'avais pu vous voir et vous parler plus souvent. Près de vous seul, mon âme a trouvé du calme et de la paix. Je vous remercie, ma reine, de m'avoir tenu sur les fonts de baptême alors que j'étais un enfant abandonné. Et je vous supplie de vouloir prier pour moi, afin que le Seigneur me prenne en pitié, car véritablement j'en ai besoin. » En achevant ces paroles, il lui serra les mains et voulut s'enfuir, mais la tante le retint en lui disant « Au couvent, mais je ne te reverrai jamais, mais je veux tout savoir, André. Laisse-le, Rosine, va lui tirer un verre de vin. Il est pâle et froid comme la mort. Sainte Mère de Dieu, mais que t'est-il donc arrivé ?»« Ne renvoyez pas Rosine, ma reine, répliqua-t-il avec anxiété, car il sentait que s'il restait seul avec Anna, ses lèvres ne pourraient retenir son secret. Tant avait sur lui de puissance cette douce voix et ses grands yeux compatissants. « Ne m'en voulez pas, continua-t-il, vous ne pourriez rien changer à ma résolution. Et si je pensais que vous souffrez de ma misère, je serais encore plus malheureux. Mais si vous voulez me donner une preuve de tendresse, posez votre main sur ma tête et bénissez-moi, parce que notre séparation doit être éternelle. » Il se mit à genoux et elle fit ce qu'il demandait. Quand elle le releva, il avait le visage inondé de larmes. Elle l'attira dans ses bras et l'embrassa longuement et passionnément sur la bouche et sur les yeux, de sorte qu'il éclata en sanglots. Ils restèrent ainsi quelques instants, subjugués par l'émotion et la douleur. « Ma reine, reprit-il enfin, oh, je n'oublierai jamais combien vous avez été bonne pour moi. Ne m'oubliez pas non plus, c'est tout ce que je demande. Le coq va bientôt chanter, je ne puis m'arrêter davantage. » André, mon pauvre enfant, s'écria la tante Anna. Et elle retomba sans force sur le siège en le voyant s'avancer sur le seuil. Et tout à coup elle se leva, une pensée soudaine traversait son esprit. Elle appela le jeune homme, mais son regard tomba sur l'image du Christ, et elle s'arrêta comme si cette vue lui rappelait un danger imminent. Secouant tristement la tête, elle s'avança d'un pas défaillant vers la fenêtre pour chercher à suivre André du regard au milieu des ténèbres. « Au couvent, murmurait-elle, Dieu miséricordieux, que ta volonté soit faite. » Rosine, qui s'était retirée sans bruit de la chambre, s'attendait en dehors, sous la porte de la maison. « André, dit-elle, quand le jeune homme s'approcha, tu étais tenu et tu as encore ta casaque de garde. J'ai été te chercher des habits de mon frère et un vieux chapeau qui vient aussi de lui. Il est à Innsbruck et n'en aura plus besoin. » Le fugitif pria la hâte
le London Job, et la mit à la place de sa tunique de cuir. « Je te remercie, Rodelle, tu es bonne, tu ressembles à ta tante. Pense à moi quand je serai partie. » La jeune fille se tut. Elle aurait pu parler sans laisser jaillir ses larmes. « Moïdi, sait-elle ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle enfin. « Non, non, tu le lui apprendras, Rosel. Salue-la encore une dernière fois et adieu pour toujours, Rosel. » Pressant à la hâte les mains tremblantes de la jeune fille, il traversa la cour et disparut dans la nuit silencieuse qui s'étendait maintenant claire et froide sur les montagnes et les vallées. Le lendemain, dès le point du jour, le vicaire de Deezer descendait à la hâte du château de Goyen. Il était accompagné de Rosine, qui devait rapporter à la tante Anna des détails plus circonstanciés sur l'aventure sanglante de la nuit et transmettre à Moïdi le dernier adieu du fugitif. Une grande agitation régnait à Mérande quand ils y arrivèrent. Les paysans, réunis dans la rue, échangeaient des paroles hostiles avec les soldats. Le nom d'André était sur toutes les lèvres, et dès qu'un uniforme se montrait, les regards devenaient plus sombres et les poings se levaient en signe de menace. L'homme de paix poursuivait sa route avec une inquiétude croissante. Son visage s'éclaircit cependant quand il apprit des capucins que l'étranger n'était pas mort. Après un long évanouissement, il avait rouvert les yeux et le médecin espérait le remettre promptement sur pied. Les renseignements qu'il obtint à l'état-major ne furent pas moins satisfaisants. On paraissait disposé à laisser tomber l'affaire si le fugitif se retirait au couvent, et l'on promettait qu'à l'avenir, une discipline plus sévère préviendrait le retour de semblables querelles. Le complice du soldat avait été mis aux arrêts. Le propriétaire de la vigne dévastée devait recevoir un dédommagement. Ainsi, tout faisait espérer une réconciliation. L'apôtre de la charité pouvait donc consoler la tante Anna par de bonnes nouvelles, et il adressa au Vinschgau deux lettres, l'une destinée au prieur, l'autre à son pénitent. Il conjurait ce dernier, au nom de son avenir et de sa conscience, de lui révéler le secret qui pesait sur son cœur. Des semaines et des mois se passèrent cependant sans qu'il reçût aucune réponse de son ancien élève. Le prieur seul lui fit savoir qu'André Lindgram était effectivement arrivé au Vinschgau et qu'il avait déjà endossé le froc des frères Lay, car il exprimait de la manière la plus énergique son inébranlable résolution de vivre et de mourir dans le cloître. Une lettre postérieure, datée de Noël, mentionnait brièvement que la conduite du novice André donnait toute satisfaction. Il accomplissait ses devoirs en silence et avec ponctualité, il employait à l'étude ses heures de loisir, mais il ne se décidait pas à écrire aux siens. Il va sans dire que le prieur ne parlait nullement des secrets du pénitent. À cette lecture, le vicaire secoua la tête d'un air pensif, et la tante Anna se tint renfermée tout le jour dans sa chambre, afin de pouvoir, par le jeûne et la prière, appeler sur son filleul les miséricordes célestes. Rosine, les yeux rouges et l'air préoccupé, allait et venait dans la maison. La mère elle-même, Moïdi la négresse, montra que son cœur n'était pas encore complètement endurci. Quelques paroles firent voir qu'elle se reprochait ses mauvais traitements et sa dureté envers le pauvre banni. Sa sœur seule, la blonde Maria, celle qui pourtant perdait le plus au départ d'André, manifesta très peu d'inquiétude.
Avec sa légèreté habituelle, elle prétendait qu'elle mourrait de rire si elle voyait le jeune homme avec le froc et la tonsure. Elle ne pouvait se persuader qu'il habitait réellement le cloître. Il n'avait aucune sorte de vocation religieuse, et sa disparition n'était qu'un stratagème inventé pour endormir le tribunal militaire. Il était allé au Vinsgau, disait-elle, que pour tirer des chamois et boire du bon vin. Les nouvelles que le prieur donna vers Noël commencèrent à lui causer de l'étonnement. Pendant 2 jours, le sourire disparut de ses lèvres. Elle se mit à écrire à son frère une lettre pleine de moqueries piquantes, mais qui contenait à la fin la pressante prière de revenir bientôt, car, entre guillemets, elle ne pouvait supporter plus longtemps son absence. Elle montra cette épître à Rosine, qu'elle voyait plus souvent alors, le château de Goyenne ayant permis à ses enfants, maintenant qu'André était éloigné, d'entretenir des relations avec la jeune fille. Rosine lut en silence. Elle songeait combien le fugitif s'était montré indifférent pour elle. « Si après cela il ne revient pas, » ajouta Moïdi, « il faudra qu'il ait trouvé un trésor dans les montagnes du Vinsgau. » « Et où penses-tu qu'il soit ?» demanda son ami. « Le messager d'Algoun l'a vu de ses propres yeux, revêtu du froc. » Maria devint pâle. « Ah, si cela était, je mourrais de chagrin, il faudrait en accuser. » Sa mère voulait-elle dire, mais elle n'acheva pas, car elle entendit tousser et gémir dans la chambre voisine. La veuve de Franz Wolfhard avait pris le lit à la suite d'une chute grave sur la glace. La rigueur du temps augmentait son mal, et chaque nuit une fièvre violente lui arrachait des paroles incohérentes que Moïdi, plongé dans le sommeil de la jeunesse, n'entendait heureusement pas. Le vicaire de Nizer visitait souvent la malade et la bonne tante Anna vint aussi s'asseoir à son chevet quand, vers la fin de l'hiver, son état parut empirer. Parfois, Franz Hitzer, qui était de retour d'Innsbruck, accompagnait la pieuse fille, mais il s'arrêtait à l'entrée de la maison et entamait une conversation enjouée avec la blonde Moïdi. Celle-ci riait des galanteries et des propos du jeune homme, affectant de ne pas voir combien il était sérieusement épris. « Maria, lui dit un jour Rosine, est-il vrai que tu encourages Franz ? Il prétend que tu le reçois bien et certainement je le désirerais. Pourtant, je ne sais pourquoi... Je ne puis pas le croire. Pourquoi pas ? Répliqua Moïdi pendant qu'elle lissait ses cheveux d'un air de parfaite indifférence. Faudra bien que je me marie, autant vaut Franz qu'un autre. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Tu comprends, Roselle, je ne puis quitter la mer. Bon, du reste, cela ne presse pas seulement. Je m'ennuie depuis le départ d'André, et quand Franz vient, qu'il me conte les nouvelles, ou bien qu'il s'assied là, sur le banc, et me regarde d'un air langoureux, en se brûlant presque le nez avec sa pipe, cela m'amuse et me fait rire. Rosine l'écoutait sans répondre. Elle ne concevait pas comment on parlait d'amour avec une telle légèreté. Le printemps était revenu, les prés avaient repris leur verdure, les châtaigniers se couvraient de frais bourgeons, et la passère, grossie par la fonte des neiges, mugissait avec un si grand fracas qu'on pouvait l'entendre de la métairie du Kuchelberg. Ce grondement était triste et effrayant. Aussi les dernières nuits de Moïdi la négresse se passèrent sans sommeil pour elle et pour sa fille. Celle-ci restait seule auprès de la malade. Elle n'avait pas mandé son frère, sachant trop qu'il ne viendrait pas. La mère ne témoigna non plus aucun désir de revoir encore une fois son fils, bien que dans le délire de la fièvre, elle prononça souvent son nom. Ce fut la dernière parole qui s'échappa de ses lèvres quand, au milieu d'une orageuse nuit d'avril, elle mourut après une longue et cruelle agonie. La jeune fille ne se sentit pas le courage de rester seule avec la morte. Elle lui ferma les yeux, récita une prière et sortit, le cœur gros. Elle s'arrêta sur le sommet du Kutschelberg, plongea ses regards dans la longue vallée de la Dige où la tempête se déchaînait dans toute sa fureur, et se sentit si malheureuse, si seule au monde, qu'elle fondit en larmes. Mais comment pouvait-il se cacher dans la cellule de son couvent et laisser sa sœur sans appui, sans consolation, au milieu des dangers et des terreurs qui l'assiégeaient? La pluie tombait plus fort, un vent frais et âpre soufflait sur le versant de la montagne. L'orpheline tremblante se traîna le long des murs jusqu'à la pentée qui avait servi de gîte à André. Et là, dans l'obscurité, elle se mit à la place qu'il occupait autrefois. Ses pleurs redoublèrent à ce souvenir, et elle s'endormit en sanglotant sur sa couche de maïs, assiégée par mille craintes superstitieuses que lui causait le voisinage de sa mère morte. Le sommeil réparateur de la jeunesse apaisa son chagrin. Mais quand elle se réveilla le lendemain, assez tard dans la matinée, la triste réalité revint à sa mémoire. Elle hésita longtemps avant d'ouvrir la porte de la maison, et elle se trouva soulagée quand elle aperçut le vicaire de 10 heures et son amie Rosine. Le jour même après l'enterrement, elle s'asseyait au soleil sur un banc placé à l'entrée de sa demeure, et elle riait aux éclats des gambades de 3 jeunes chats qui se roulaient sur le sol en jouant avec un épi. 15 jours plus tard, elle montait avec Rosine dans une voiture légère que Franz conduisait d'un air de triomphe. Ils suivirent la route qui conduit au Vinschgau, attirant tous les regards sur leur passage, car chacun s'arrêtait pour contempler la jolie blonde dans la fraîche figure et le rire joyeux contrastait si fort avec les vêtements de deuil qu'elle portait. Mais dès qu'elle aperçut le vieux cloître qui s'élève au sommet de la montagne, sur un cône de granit sombre et nu, autour duquel une maigre végétation laisse apercevoir le précipice béant et terrible, semblable à une porte de l'enfer, son visage prit une expression sérieuse. À partir de ce moment, elle n'adressa plus une seule parole à Rosine, qui elle aussi regardait le monastère d'un air pensif. Au pied du Vinschgau s'étendait un pauvre village entouré, comme tous les hameaux voisins de Méron, de figuiers, de vignobles et de magnifiques châtaigniers. Moïdi ne s'était jamais éloignée du Kuchelberg. Elle se représentait le monde avec son imagination de 18 ans. Aussi, quand elle descendit de voiture, toute timide et toute attristée, et qu'elle se trouva devant la porte d'une salle de cabaret de campagne, elle refusa d'entrer, préférant gravir aussitôt avec Rosine le chemin de la montagne afin de voir son frère avant la nuit. Franz resta pour s'occuper des chevaux. Il était d'ailleurs bien aise d'éviter la présence d'André. Les deux jeunes filles s'avançaient du pas égal et facile des paysannes. Elles se tenaient par la main, baissant la tête et n'échangeant pas une parole. Quand elles furent arrivées près du monastère et qu'elles purent apercevoir la mousse qui croissait sur le toit, Moïdi s'arrêta tout à coup et regardant avec effroi les murailles nues. « Pourrais-tu demeurer là, Rosine ? » dit-elle. Son ami secoua la tête. Mais le cœur me saignerait, je n'en aurais pas le courage, reprit Maria. Pas la moindre verdure autour de ce couvent, pas de vigne, pas de champ de blé. Oh, tu verras que j'avais raison. Il n'a pas passé l'hiver ici. Nous ne le trouvons certainement pas. Qui sait où il se cache? Rosine ne répondit pas. Elle savait trop qu'il habitait cette sombre demeure. Quand elles sonnèrent à la porte du cloître et demandèrent André Ingram, le frère portier regarda les jolies filles d'un œil scrutateur. « Il faut qu'il vienne, » ajouta précipitamment Maria. « Dites-lui que c'est un message de Méran, mais ne lui faites pas savoir qui la porte. » Elles s'assirent sur un banc de pierre à côté de la porte et attendirent. « Mais c'est bien vrai, Roselle, il est ici. Mais comment a-t-il supporté une telle existence ?» s'écria la sœur d'André. Elle passa sa main sur son front qui était brûlant et rajusta sa coiffure pour cacher son trouble. Rosine demeurait en silence, appuyée au mur, les mains sur son sein, les yeux fermés. On lui dit qu'elle ne pouvait supporter la vue des lueurs rougeâtres qui apparaissaient au-dessus du sommet de la montagne. La lourde porte cria de nouveau sur ses gonds. « André, c'est moi !» s'écria Moïdi en se jetant au cou de celui qui entrait. Mais au même instant, elle se recula, tout effrayée. C'était bien lui, et cependant, elle hésitait à le reconnaître. Un seul hiver la vieillit de plus de 10 ans. Il restait devant elle, la regardant fixement, avec des yeux sombres et pleins d'angoisse, comme si elle eût été un spectre, comme si lui-même eût été plongé dans un rêve terrible. La jeune fille s'était promis de le taquiner, mais maintenant, elle était plus près de pleurer que de rire. « André, reprit-elle enfin, comme tu me regardes d'un air farouche, ai-je mal fait de venir? Mais voilà aussi Roselle, ne diras-tu rien ? C'est Franz qui nous a amenés, et nous devons repartir demain. Que tout ici est triste et désert, mais comment as-tu pu rester? En vérité, à te voir si maigre et si pâle, on croirait que tu reviens de l'autre monde. L'air est si âpre sur cette montagne. Il faut que tu reviennes avec nous à Méran. Le vicaire se chargera d'écrire à monsieur le prieur. Il en est temps encore. L'année n'est pas révolue. Tu habiteras au Kuchelberg, dans notre maisonnette, car tu ne sais pas, André. La mère est morte. » Tandis qu'elle parlait, son émotion s'était calmée. Ses traits avaient repris leur expression enfantine. Et, chose étrange, elle prononça les dernières paroles, celles qui annonçaient la mort de sa mère, avec une bouche presque souriante. Son frère parut aussi rappelé au sentiment de la réalité et lui répondit du même ton qu'autrefois. « Bon, je te remercie d'être venu, Moïdi, et toi aussi, Rosine. Mais ce que tu viens de m'apprendre ne change rien à ma résolution. Je ne retournerai pas à mes rangs. Il faut plutôt que je m'éloigne davantage, que j'aille dans un couvent d'Italie ou de France, car tu as raison, l'air d'ici ne me convient pas. » En disant ces mots, il abaissait son regard sombre sur les dalles qui formaient le sol. « André, s'écria Moïdi, ne me parle pas ainsi, tu me fais du chagrin. J'ai été bien triste sans toi pendant l'hiver. Si j'avais pu, j'aurais tout quitté pour venir à toi. Et maintenant, tu parles d'aller dans des pays étrangers. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Mais je suis tenté de croire que la mère disait vrai lorsque, dans sa fièvre, elle répétait que tu n'étais pas son fils et qu'elle t'avait reçu d'une autre femme. Non, tu n'es pas mon frère, puisque tu as pour moi un cœur si dur. » André avait fait involontairement un pas en arrière, et il a regardé avec des yeux dilatés par l'émotion. « Moïdi, balbutia-t-il enfin, cela est-il possible? Pourrais-tu jurer que tu as bien entendu ?» Elle a voulu s'emparer de sa main, mais il la retira précipitamment, s'adressant à Rosine, qui était restée debout à quelque distance, afin de les laisser libres de s'entretenir ensemble. « Rosaine, dit-il, j'ai besoin de parler à Moïdi. Nous reviendrons dans un instant. » Puis, faisant signe à sa sœur de le suivre, il se dirigea vers une porte qui donnait dans le potager. Une métamorphose complète semblait s'opérer en lui. Son visage avait pris une animation soudaine. La vigueur et l'éclat de la jeunesse brillaient de nouveau sur ses traits. Quand ils furent seuls, « Maria, commença-t-il d'une voix tremblante, répète encore une fois les paroles de la mère. Si mon bonheur t'est cher, dis-moi bien tout. Ma vie et ma mort en dépendent. » Il avait saisi ses mains et il les serrait par un mouvement fiévreux. « Voilà un étrange discours, répondit-elle tranquillement. Quand même la mère aurait dit cela, elle l'a dit en effet mot pour mot à plusieurs reprises. Qu'est-ce que cela prouverait? Tu sais qu'elle ne t'aimait pas. Peut-être croyait-elle aussi te priver de ta part d'héritage. Ou bien peut-être se repentait-elle du mal qu'elle t'avait fait pendant sa vie et voulait-elle faire entendre par là que tu avais été pour elle un étranger puisqu'elle ne t'avait jamais traité comme son fils. « Mais cherche à te rappeler, reprit-il avec insistance. N'a-t-elle pas nommé la personne qui lui avait amené l'enfant ? » Ces paroles lui sont-elles échappées dans le délire de la fièvre ou bien la nuit, quand elle croyait que tu ne l'entendais pas ? La personne qui t'avait remis entre ses mains ? Non, 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 elle n'en a jamais parlé, répliqua la jeune fille, qui devenait sérieuse et s'efforçait de rassembler ses souvenirs. Mais attends, mais je me rappelle qu'un jour le vicaire de 18 heures était à son chevet. Elle avait le délire et il cherchait à la calmer. Alors elle s'est jetée brusquement hors de son lit, disant qu'elle voulait aller trouver monsieur le curé, les juges, l'empereur même, afin de déclarer que tu n'étais pas son fils. J'entrai dans la chambre et j'aperçus le révérend qui, tout effrayé, se tenait près d'elle. En me voyant s'approcher, il se pencha pour murmurer à son oreille des choses que je ne pus pas entendre, mais qui parurent la décider à garder le silence. Et maintenant, bon, que tout cela soit un effet de la fièvre ou un jeu de son imagination, qu'est-ce que cela te fait, André? Si c'était vrai, m'en aimerais-tu moins? N'avons-nous pas toujours été l'un pour l'autre un frère et une sœur? Pourrions-nous jamais l'oublier? Pour moi, André, je ne saurais changer ainsi tout à coup, et l'empereur aurait beau publier un décret pour nous séparer, comme la mère le demandait, tu n'en serais pas moins mon frère, et la petite maison t'appartient, et les vignes et tout. D'ailleurs, je n'ai plus bien longtemps à demeurer au Küsselberg, car, il faut que tu le saches, je suis fiancé à Franz Hirzer. L'automne prochain est fixé pour le mariage, et demain j'irai à Goyenne. Tu ne m'en veux pas de ne point t'avoir consulté à ce sujet, dit André. Elle était troublée, sans savoir pourquoi elle osait le regarder. Il lui semblait en ce moment qu'elle avait mal agi en engageant sa parole à Franz, car elle n'ignorait pas que son frère et lui étaient en désaccord. Elle baissait la tête, confuse et tremblante, comme un écolier pris en faute. Elle s'attendait à être grondée,
Elle espérait se défendre et obtenir son pardon. Mais André se taisait, et le cœur de la pauvre fille se serrait douloureusement. Enfin, de grosses larmes jaillirent de ses yeux et roulèrent sur son frais visage. « Moïdi, as-tu fait cela de ton plein gré ?» dit alors le jeune homme. « Ou bien as-tu cédé seulement parce que tu étais fatigué de leurs sollicitations ?» Elle tourna vers lui, ses yeux pleins de larmes. « Ah, André, répondit-elle, pardonne-moi. Je ne sais pas moi-même comment cela est arrivé. Ils m'ont emmené à Guyenne lorsque la mère est morte. Je couchais avec Rosel et j'étais comme l'enfant de la maison. Et la tante Anna me répétait toujours que Franz était un brave garçon et que si je l'agréais, je n'aurais pas à me repentir. Et puis il a l'air de tant m'aimer. Oh, si tu avais été là, André, je n'aurais peut-être pas consenti, mais tu étais bien loin, je ne pouvais pas te demander conseil. Et si je t'avais défendu de l'épouser, est-ce que tu en aurais eu du chagrin ? Dit-il précipitamment. Elle passa son bras autour du cou du jeune homme et le regarda avec une expression touchante d'enjouement et d'affection. « Mais je ne l'aime pas autant que toi, répondit-elle. J'ai plus de plaisir à suivre tes avis qu'à écouter ses prières. Mais la chose est faite, il n'y a plus à y revenir. Si je refusais maintenant, ce serait réveiller la haine qui a si longtemps existé entre les deux familles. Pardonne-moi et accompagne-nous au château. La tante Anna s'informe souvent de toi. Elle désire te voir, car elle a beaucoup de choses à te dire. Elle qui est une sainte, elle serait pourtant bien joyeuse si tu jetais aux orties ce vilain froc avec lequel tu ne seras jamais notre gentil André d'autrefois. Fais cela pour l'amour de moi. Je ne pourrai jamais être heureuse avec la pensée que tu vis dans cette triste maison et que si tu venais à être malade, je ne serais pas là pour te soigner. Promets-moi du moins, mon bon André, que tu assisteras à mon mariage et que tu parleras à la tante. » En achevant ces mots, elle lui caressait doucement le visage et il la laissait faire en baissant la tête, tandis que le léger tremblement de ses lèvres trahissait seul sa lutte intérieure. « Pas un mot de plus maintenant, » reprit-il avec effort. « Mais je descendrai demain de bonne heure pour te voir encore une fois et je te dirai ce qu'il faudra faire. Prends courage, Moïdi. Remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Bonne nuit. » Il s'éloigna rapidement, traversa le petit jardin pour entrer dans le cloître et referma la porte sans avoir jeté un regard vers la jeune fille qui le suivait des yeux avec inquiétude. Elle songeait au peu de paroles qu'il lui avait adressées, se demandait quel sentiment l'agitait, quel projet il pouvait nourrir. En proie à une grande tristesse, elle retourna auprès de Rosel. Celle-ci n'avait pas quitté le parloir et commençait à être fort inquiète. Et son cœur se brisa quand elle vit sa compagne revenir seule. André n'avait donc pas même pensé à lui dire un mot d'adieu. « Je savais bien, dit Maria, qu'il ne serait pas content de mon mariage. Mais comment faire pourtant? Demain matin, il m'apprendra ce qu'il a décidé. Il me regardait à peine et je n'ai pas pu obtenir qu'il revienne avec nous. Si du moins j'étais sûr d'avoir eu raison d'accepter Franz, si j'avais bien le désir d'être sa femme, je pourrais ne pas m'inquiéter d'André et agir à ma guise sans lui demander conseil. Mais du plus loin que je me souvienne, j'ai été habitué à l'écouter. Il a toujours été si bon pour moi. Pourquoi tout cela est-il arrivé ? » En s'entretenant ainsi, les jeunes filles descendirent la montagne et le reste de la journée se passa pour elle dans la contrainte et le silence. Franz n'avait jamais été grand parleur. Il ne se préoccupait pas le moins du monde ce qui s'était passé avec André. Il ne s'étonna pas de la réserve de Rosel et de Maria. Il resta gaiement à boire et à fumer en compagnie de quelques paysans jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Le jour commençait à peine à poindre quand Rosine, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, entendit des pas résonner dans la cour et s'arrêter sous la fenêtre basse de leur chambre à coucher. Les chiens aboyèrent, mais ils furent bientôt apaisés. Le cœur de la jeune fille battit avec violence. Elle se leva en toute hâte, agitée d'un triste pressentiment. Maria dormait d'un sommeil paisible. Une main frappa légèrement aux vitres. « Moïdi !» cria une voix bien connue. « Moïdi dort encore !» répondit Rosine à voix basse. « Faut-il l'éveiller ?»« Oui, Rosel, réveille-la, qu'elle se dépêche et s'habille au plus vite. J'ai à lui parler de beaucoup de choses avant son départ. » Au bout d'un quart d'heure, la porte s'ouvrit doucement et Maria parut, tournant vers son frère un visage qui exprimait la crainte et la curiosité. « Bonjour, dit-elle, tu es venu bien matin. Est-ce au moins pour m'apporter une bonne nouvelle et me rendre ma gaieté ?»« Prends ton manteau, reprit-il, pour toute réponse. Il fait frais et tu n'es pas accoutumé à un air aussi vif. Viens, nous ferons ensemble quelques pas. » Elle y consentit et s'avança vers lui en souriant. Le silence qui les environnait, l'étrangeté du lieu, la solitude de la montagne, le froc qui couvrait son frère, tout lui semblait bizarre, tout charmait son imagination enfantine. Elle retrouva son espièglerie, ramena sur sa tête un pan de son manteau en disant « Vois-tu, frère, je suis ta capucine. » Mais André lui prit la main et sortit avec elle en silence. Les chevaux s'agitaient dans les écuries. Les oiseaux secouaient leurs ailes. Un jeune coq saluait joyeusement le matin. Tout le monde, néanmoins, dormait encore dans la maison, hormis une pauvre fille qui, de la fenêtre, regardait dans la cour et qui, brûlante à la fois et glacée par la fièvre, se remit au lit pour attendre le lever du soleil. La matinée s'avançait et ni le frère ni la sœur n'étaient de retour. Franz Hirzer, le front plissé, assis dans la chambre de l'auberge près d'une bouteille, sortait à chaque instant pour voir s'il n'apercevrait pas sa fiancée. Enfin, il fit avancer la carriole en proférant contre André mille malédictions. Rosine ne disait pas une parole, mais son cœur était triste à mourir. La vie désormais lui semblait vide de joie et d'espérance. Vers 10 heures, un des religieux du monastère apporta une lettre qu'André avait écrite dans la nuit et par laquelle il annonçait à Rosine son intention d'aller faire un pèlerinage pour le repos de l'âme de sa mère. Et comme il comptait emmener Maria, il engageait Rosine et son frère à retourner sans elle à Méran, où Moïdi arriverait en même temps qu'eux. Quand Franz apprit cette nouvelle, il frappa sur la table un coup si violent que les verres faillirent se briser. Dans le premier mouvement de sa colère, il voulait se mettre à la poursuite d'André, mais il ignorait le lieu de pèlerinage et le messager ne savait rien à cet égard. Si donc le prieur avait accordé au frère André la permission nécessaire. Le jeune homme dut alors refouler sa fureur et sa haine en attendant une occasion de leur donner un libre cours. Le voyage fut pénible pour la pauvre Rosine, qui, placé près de son frère furieux, l'entendait continuer ses imprécations contre le perfide ravisseur et jurer, si Maria devenait un jour sa femme,
de fermer sa porte à André, comme Joseph Yatzer, son père, l'avait toujours fait. Il avait, disait-il, repoussé de toutes ses forces le projet de cette visite au misérable enfant trouvé, qui jamais aux yeux de la loi ne serait son légitime bon frère. Cependant, les femmes, surtout la tante Anna, s'étaient mis cette idée en tête et il avait eu la folie d'y consentir. Mais sans Rosine, il n'aurait pas cédé à la tante. C'était elle qui avait fait le mal. Elle n'aurait pas dû souffrir le matin qu'André sortit avec Maria. Puis il vomissait d'un flot d'injures qui, à la vérité, faisait peu d'impression sur sa sœur, car le chagrin plus violent dont son âme était remplie la rendait insensible à toute autre douleur.